Bonjour à toutes et à tous. Ce matin, on va parler de quelque chose que nous voyons tous les jours dans notre chemin et dans la ville où nous habitons. On va parler un peu de graffiti. Ça vous étonne, je pense. Oui, vous allez comprendre. Hein? Depuis toujours, je m'intéresse au graffiti qu'on trouve partout à Paris et surtout dans ces banlieues. J'ai toujours pensé qu'ils ne sont pas seulement des gribouillages sur des murs, mais ils ont certainement un sens. Ils sont faits avec un but de communiquer quelque chose, j'espère. Le premier graffiti se trouve dans la Bible. Ça vous étonne encore? Savez-vous où? C'est Daniel. Ah, c'est un Daniel, là. C'est dans le livre de Daniel qu'on trouve la première graffiti. Nous devons retourner au-delà de Pompéi et au-delà de Rome dans l'histoire. En fait, nous devons remonter encore 5 siècles à l'ancienne Babylone. On y trouve les graffitis originaux sur le mur de la salle de banquet du palais du roi Belshazzar. Alors que nous passons du 4e chapitre de Daniel au 5e chapitre, il faut nous rappeler que 20 années se sont écoulées. Le roi Nebuchadnezzar est mort. Il a été remplacé par son fils qui a été assassiné, par son beau-frère qui à son tour a régné pendant 4 ans, puis a perdu sa propre vie au combat. Il fut suivi par 2 rois, Nabonidus et son fils Belshazzar, qui régnèrent brièvement. Donc Belshazzar, ce n'est pas le fils de Nebuchadnezzar, mais le petit-fils, son petit-fils. Ainsi, dans ce chapitre, nous retournons à Babylone à une soirée d'orgie dans le palais du roi Belshazzar. Comme les Babyloniens blasphémaient et faisaient la fête, une chose étrange s'est produite. L'inscription qui a été écrite était Mene, Tekel, Upharsin. L'écriture était sur le mur. Dans la langue anglaise, il y a un idiome ou un proverbe écrit sur le mur, the writing on the wall, qui vient de la Bible. Ce qui signifie un signe de catastrophe à venir. J'ai cherché un peu pour connaître son équivalent en français. Il n'est pas d'équivalent exact. Ce serait quelque chose comme celui-ci. Marcher avec des œillères ou ne pas voir plus loin que le bout de son nez. Nous allons lire ce passage pour comprendre ce qui s'est passé. Donc, tournez avec moi en Daniel chapitre 5. On va lire ce chapitre entier, en entier, Daniel chapitre 5, c'est après Ézéchiel, dans l'Ancien Testament. Donc Daniel chapitre 5, le roi Belshazzar donna un grand festin à ses grands, au nombre de 1000, il but du vin en leur présence. Belshazzar, quand il eut goûté au vin, il fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servissent pour boire. Alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem. Et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servir pour boire. Ils burent du vin et louèrent les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. En ce moment apparurent les doigts d'une main d'homme. Ils écrivirent en face du chandelier sur le chaud de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Alors le roi changea de couleur Et ses pensées le troublèrent, les jointures de ses reins se relâchèrent et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Le roi cria avec force qu'on fit venir les astrologues des Chaldéens et les devins. Et le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone, quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'explication sera revêtu de pourpre, portera un collier d'or à son cou et aura la troisième place dans le gouvernement du royaume. Tous les sages du roi entrèrent, mais ils ne purent pas lire l'écriture et donner au roi l'explication. Un peu comme nous, quand nous voyons le graffiti, on ne sait pas qu'est-ce que ça signifie. Verset 9, sur quoi le roi Belshazzar fut très effrayé. Il changea de couleur et ses grands furent consternés. La reine, certainement la veuve de Nebuchadnezzar, sinon sa fille, à cause des paroles du roi à ses grands, entra dans la salle du festin et prit ainsi la parole. Au roi, vis éternellement, que tes pensées ne te troublent pas et que ton visage ne change pas de couleur. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints. Et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Aussi le roi Nebuchadnezzar, ton père, le roi ton père, l'établit chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens, des devins. Parce qu'on trouve chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belshazzar, un esprit supérieur de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre des questions difficiles. Que Daniel soit donc appelé, il donnera l'explication. Verset 13. Alors Daniel fut introduit devant le roi prit la parole et dit à Daniel, es-tu ce Daniel, l'un des captifs de Juda, que le roi mon père a amené de Juda? J'ai appris sur ton compte que tu as en toi l'esprit des dieux et qu'on trouve chez toi des lumières, de l'intelligence et une sagesse extraordinaire. On vient d'amener devant moi les sages et les astrologues afin qu'ils lisent cette écriture et m'en donnassent l'explication. Mais ils n'ont pas pu donner l'explication des mots. J'ai appris que tu peux donner des explications et résoudre des questions difficiles. Maintenant, si tu peux lire cette écriture et m'en donner l'explication, tu seras revêtu de pourpre, tu porteras un collier d'or à ton cou et tu auras la troisième place dans le gouvernement du royaume. Daniel répondit en présence du roi, garde tes dons et accorde à notre tes présents. Je lirai néanmoins l'écriture du roi et je lui en donnerai l'explication. Au roi de Dieu suprême, au roi, le Dieu suprême avait donné à Nebuchadnezzar, ton père, l'empire, la grandeur, la gloire et la magnificence. Et à cause de la grandeur qu'il lui avait donnée, tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue étaient dans la crainte et tremblaient devant lui. Le roi faisait mourir ceux qu'il voulait et laissait à vie ceux qu'il voulait. Il élevait ce qu'il voulait, il abaissait ce qu'il voulait. Mais lorsque son cou s'éleva et que son esprit endurcit jusqu'à l'arrogance, il fut précipité de son trône royal et dépouillé de sa gloire. Il fut chassé du milieu des enfants des hommes. Son cœur devint semblable à celui des bêtes et sa demeure fut avec les ânes sauvages. On lui donna comme au bœuf de l'herbe à manger, et son corps fut trempé de la rosée du ciel jusqu'à ce qu'il reconnut que le Dieu suprême domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il plaît. Et toi, Belshazzar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur. Quoique tu suses toutes ces choses, tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Les vases de sa maison ont été apporté devant toi, et vous en êtes servi pour boire du vin. Toi et tes grands, tes femmes et tes concubines, tu as loué des dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois et de pierre, qui ne voient point, voient point, qui n'entendent point et qui ne savent rien, tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voix. C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. Voici l'écriture qui a été tracée. Peut-être dans votre Bible, dans la version originale, je prends la version Louis II. Donc, comptez, comptez, pesez et divisez. Comptez, comptez, pesez et divisez. Et voici l'explication de ces mots comptez. Dieu a compté ton règne et il a mis fin. Pesez, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisez, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Aussitôt, verset 29, Belshazzar donna des ordres et l'on revêtit Daniel de pourpre. Et on lui mit au cou un collier d'or et on publia qu'il aurait la troisième place dans le gouvernement du royaume. Cette même nuit, Belshazzar, roi de Chaldéens, fut tué. Et Darius, le Mède, s'empara du royaume, étant âgé de 62 ans. Voilà, c'est une histoire assez spectaculaire, mais aussi triste. C'est aussi triste. Ce sont les quatre mots inscrits par une main mystérieuse sur le mur de la salle où Belshazzar donna un festin au grand de son royaume. D'après certaines exégètes modernes, il s'agirait de quatre noms du poids utilisé chez les Juifs. Une mine, un shekel et une demi-mine. Donc c'est des mesures que utilisaient les Juifs. Ce sont des quatre mots inscrits par une main mystérieuse sur le mur de la salle où Belshazzar donnait un festin au grand de son royaume. Ça, c'est quelque chose d'habituel pour des rois, pour donner un festin. Ce n'est pas quelque chose de très nouveau. Mais ce qui s'est passé, on voit dans ce chapitre, il a utilisé, il a fait venir les ustensiles sacrés qui étaient amenés de Jérusalem, de le temple de Dieu. Il a désécré ces ustensiles qui étaient des ustensiles sanctifiés, qui étaient au service de Dieu, le seul Dieu souverain. On sait qu'au cours de cet immense banquet, le roi chaldéen, excité par le vin, fit apporter les vases d'or, d'argent que Nebuchadnezzar, son père, avait enlevé du temple de Jérusalem. En fait, Nebuchadnezzar, quand il a pris Jérusalem, il a volé ou il a emporté tous ses ustensiles, l'objet qu'il a trouvé, l'objet précieux, à Jérusalem, dans le temple de Jérusalem, pour amener à Babylone. C'est alors qu'apparut soudain la main mystérieuse qui écrivit ces quatre mots, non moins énigmatiques, sur le chaud de la muraille. Terrifié, le roi consulta aussitôt ses astrologues et ses devins et promit une récompense magnifique à celui qui donnerait l'explication d'un fait aussi troublant, mais aucun ne le put. Sur les instants de la reine, le roi fait venir l'homme inspiré par rapport à, selon lui, des dieux saints. Ça, c'était la religion de Babylone. Il avait plusieurs dieux, il croyait en plusieurs dieux. Donc, il appelait l'homme inspiré des dieux saints. Après avoir, avec beaucoup de dignité, repoussé la promesse royale, Daniel évoque la lamentable fin de Nebuchadnezzar, durement châtié par l'Éternel pour son orgueil insolent, puis il reproche à Belshazzar qui n'a pas su profiter d'une aussi terrible leçon, d'avoir profané les vases sacrés et d'avoir glorifié les idoles au lieu du seul vrai Dieu. Cet homme, Belshazzar, ce roi Belshazzar, il avait un exemple, même dans sa propre famille. Nebuchadnezzar, à cause de son orgueil, il était frappé durement, et pendant 7 ans, il était comme une bête dans le champ. Un roi tout-puissant d'un empire si grand comme l'empire de Babylone, il était réduit à rien du tout. Mais pourtant, il avait cet exemple, mais cet homme, il n'a rien appris. Il était autant orgueilleux, autant il était méprisant de Dieu vivant, d'Israël. Voilà pourquoi la main a écrit sur le mur les 4 mots vengeurs. Mene, mene, tekel, upasim. On a beaucoup discuté sur la signification de ces mots qui ne sont pas, comme on le croit souvent, des termes chaldéens, mais ils sont des termes araméens. Araméen, c'est le langage parlé en Israël. D'après le langage juif, d'après certaines exégètes modernes, il s'agirait de 4 noms. Ok, nous venons vers maintenant l'interprétation de Daniel. La sagacité de Daniel, inspirée de Dieu, se serait montrée en ce qu'il saisit d'emblée le rapport étymol, le sens de mot. En araméen, le mot mine au verbe signifiant compter. Le mot shekel au verbe peser est le mot désignant une demi-mine au mot qui veut dire diviser ou division. L'on aurait conclu que le sens d'inscription est celui-ci, compter, compter, peser et diviser. Et sans s'arrêter à la répétition du premier terme, mené, mené, il aurait paraphrasé de la façon suivante, compter, Dieu a compté ton règne et a mis fin. Dieu a compté ton règne et il a mis fin. Pesé, tu as été pesé dans la balance de l'Éternel et tu as été trouvé léger. Divisé ou division, ton royaume sera divisé. C'est ça le sens que Daniel il a donné. Dans ce chapitre 5 du Daniel, nous voyons que dans la même nuit, Belshazzar fut tué et que son royaume passa aux Mèdes. Daniel interprète le malheureux destin qui attend Belshazzar. Ce dernier n'avait pas pris au sérieux l'avertissement divin donné à Nebuchadnezzar. De plus, il avait insulté le Dieu vivant. Les pécheurs ne satisfont de Dieu qui ne peut voir ni entendre, ni savoir. Un jour, ils seront jugés par celui qui détient toutes choses dans ses mains. Daniel a donc lu la phrase écrite sur le mur. Tout ceci peut très bien être le destin de chaque pécheur. À sa mort, les jours qu'il a vécu sont recensés. Après sa mort, il y a un jugement. Il sera aussi pesé dans la balance et trouvé léger. Alors que l'événement de ce texte se déroulait dans le palais, on peut supposer qu'au même moment, l'armée de Cyrus entrait dans la ville et quand Belshazzar a été massacré, une soumission générale a suivi. C'est-à-dire, au même moment quand le roi il est en train de faire le festin avec ses convives, ses ennemis, ils étaient là, juste derrière la ville, cette ville. La ville était assiégée, donc l'ennemi n'était pas loin. Donc quand le jugement de Dieu est tombé, et tout de suite, dans la même nuit, il entre, il tue le roi. L'apparition de Mene, Mene, Tekel, Upasim sur le mur du roi est un rappel que tout ce que nous sèmes, nous allons aussi récolter. Ne vous y trompez pas ou ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de sa chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Romains. Dieu le juste juge. Il pèse toutes les choses et met en main le châtiment dans son temps. Lève-toi, juge. Psaume 94, versets 2 à 3. Lève-toi, juge de la terre. Rends aux superbes selon leur œuvre. Jusqu'à quand les méchants, ô Éternel, jusqu'à quand les méchants triompheront-ils? Dieu est juste, juste parce que nous ne voyons pas les choses arriver, juste parce que nous ne voyons pas les choses passer devant nos yeux, ça ne veut pas dire que Dieu ne jugera pas. Parfois, Dieu parle très clairement dans nos vies, nous condamnant du péché et nous avertissant du jugement en attente. Nous ne pouvons pas ignorer l'écriture sur le mur. Nous ne pouvons pas ignorer l'avertissement de Dieu. Les royaumes et les gouvernements des hommes ne sont pas en accord avec le royaume de Dieu. L'homme dans le monde est occupé à construire des empires ou des royaumes. Mais la grande question est, sont ces royaumes en accord avec le royaume céleste? Nous dépensons tout notre temps à chercher l'éducation. Nous cherchons tout notre temps pour chercher l'argent, pour gagner l'argent. Nous dépensons toute notre vie pour construire des maisons, pour acheter des voitures, les voitures, les richesses terrestres. Mais est-ce que ces choses sont-elles en ligne avec la volonté de Dieu? Si Dieu va compter ce que nous possédons un jour, s'il va peser ce que tous nos efforts, ce que nous faisons dans ce monde. Et comment ce sera-t-il? Est-ce que nous voyons l'écriture sur le mur? Vous achetez des voitures, des maisons, des terres, acquérir l'éducation, l'argent. Mais ces choses sont-elles pour la gloire? Est-ce que ces choses sont-elles pour la gloire de Dieu? Il n'y a pas de mal d'avoir des choses matérielles. On vit sur cette terre, on a besoin des choses pour vivre. Mais est-ce que c'est vraiment, nous cherchons ces choses pour notre gloire ou pour la gloire de Dieu? Pour quelle raison? Nous devrions, chaque fois que nous achetons quelque chose, nous acquérirons, on a envie d'avoir certaines choses, nous devrions poser la question, est-ce que ce sera pour la gloire de Dieu? Est-ce que je pourrais utiliser ces choses pour la gloire de Dieu? Utilisez-vous ces choses pour glorifier Dieu ou sont-ils les idoles que vous adorez dans votre vie? Ce que exactement ce roi Belshazzar il a fait amener les ustensiles de le temple de Dieu qui était Nebuchadnezzar il a amené. Il a pensé à ça. Il voulait se glorifier lui-même pour désécrer ses ustensiles pour dire que je suis plus grand que le Dieu d'Israël. C'est quelque part, il voulait se lever, élever lui-même. Il lançait un défi devant Dieu. Et son but à l'honneur des dieux païens, ce qu'on voit dans la parole, et son but ensemble pour l'honneur de Dieu païen. Donc nous aussi, parfois, nous pouvons posséder des choses et ça peut être des choses très innocentes aussi parfois, mais ça devient, on n'est pas du tout conscient que ça devient les idoles, nos idoles. Et ce n'est pas pour la gloire de Dieu, mais finalement, on commence à adorer ces choses. Beaucoup de personnes ne se posent pas ces questions. Elles continuent à construire le royaume sur cette terre sans même considérer Dieu qui est le souverain. Par exemple, on devrait nous éduquer dans ce monde. Nous avons l'éducation nationale, on devrait nous éduquer, nous devrions étudier, c'est tout à fait légitime. Mais imaginez, vous faites votre étude pendant 10 ans, pendant 15 ans, pendant 20 ans. Mais à la fin de votre vie, comment vous allez peser et tout ce que vous avez acquis comme éducation? Je sais comment j'ai galéré pour avoir un certain diplôme ou un degré quand j'étais étudiant, mais ils sont dans le fond de tiroir. Ils n'ont pas une grande valeur aujourd'hui pour moi. Je ne suis pas encore retraité, mais j'imagine après 20 ans, encore leur valeur se sera diminuée. Peut-être que vous avez des coupes et des médailles que vous avez travaillé très dur pour acquérir. Mais quelle valeur ils ont aujourd'hui? Quelle valeur? Dieu compte ces choses. Nous ne comptons pas. Dieu compte ces choses. Dieu pèse ces choses. Est-ce que les choses que nous voulons acquérir aujourd'hui, est-ce que ces choses, ils ont une valeur dans l'éternité? Après avoir construit le royaume aujourd'hui ou demain, vous allez voir l'écriture sur le mur. Menez, tekel ou parsim. Comptez, pesez et divisez. Vous voyez des signes de perte d'emploi, perte d'argent, l'éducation devient inutile, perte de santé. Tout devient inutile et futile un jour. Pourquoi un jour? C'est aujourd'hui. Nous sommes en train de vivre dans le monde, dans un contexte très très particulier avec le COVID-19. Et tout devient possible. Perte d'emploi. Il y a des millions de gens qui ont perdu leur emploi. Et ceux qui travaillent, ils ne sont pas sûrs de garder leur emploi. La santé, on n'est pas sûr. N'importe qui peut attraper ce virus. Et on est si fragile. Et quand vous êtes dans le lit d'hôpital, l'éducation, ça ne sert à rien. Ça ne servira de rien. Tout notre diplôme, ça ne servira de rien. Et tout ce qu'on aura besoin, c'est une bouteille d'oxygène, je pense. Mene, les écrits disent que le royaume que vous avez passé toute votre vie à construire sont comptabilisés et finis. Ça, c'est, on voit ça dans la vie de ce roi. Et il y avait, Dieu l'a fait en comptabilité. C'était comptabilisé, était fini pour lui, le soir même. En fin de compte, tout devient zéro. Dans notre vie, en fin de compte, tout devient zéro. Vanité de vanité, tout est vanité comme nous voyons dans le livre de Ecclésiaste. Celui qui a tout possédé, celui qui a tout fait, l'homme le plus sage, à la fin de sa vie, il écrit vanité de vanité, tout est vanité. On a encore mal à croire ce que Salomon il a dit. Je lis de Romains 14, verset 11-12. « Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi, chacun de nous rendront compte à Dieu pour lui-même. » Moi, je ne peux pas rendre compte à Dieu pour vous. Et ainsi, vous ne pouvez pas rendre compte pour moi. On ne peut pas rendre compte pour notre voisin. Et chacun, nous devrions rendre compte à Dieu. C'est sûr ce que la parole dit. Un jour, nous allons rendre compte pour tout ce que nous faisons et pour tout ce que nous possédons et comment nous allons faire. Comment nous allons faire? Et quand Noé et sa famille sont entrés dans l'arche, la Bible dit qu'ils sont entrés avec des animaux, la nourriture et tout ça, mais on ne voit pas que Noé il a amené de ses possessions dans l'arche. C'est inutile. Hein? C'est inutile. Comme le frère il nous a dit ce verset en psaume 90-12, enseigne-nous à bien compter nos jours. Moïse, il écrit, enseigne-nous, Seigneur, pour bien compter nos jours. Est-ce que nous reconnaissons à ce terrible fait que nous pourrons partir un jour? Et c'est tellement une réalité dans ces jours. Je pense qu'hier, sur 24 heures, il y a 90 personnes qui sont parties, uniquement de Covid. Après, il y a d'autres choses qui tuent, bien sûr. Et mené, et le troisième mot, c'est tekel. Dieu les a pesés dans sa balance pour que tu puisses connaître les valeurs de tes possessions. Dieu pèse ce que tu possèdes. Sur le point de mourir, Alexandre convoqua ses généraux et leur communiqua ses dernières volontés. Que son cercueil soit transporté à bras d'hommes par les meilleurs médecins de l'époque, que les mains restent à l'air libre, se balance en dehors du cercueil à la vue de tous. L'un de ses généraux, étonné de ces requêtes insolites, demanda à Alexandre quelle en était la raison. Alexandre le Grand, qui a presque vaincu tout le monde entier, cet homme, quand il est mort, au point de mourir, il donne cet ordre à ses généraux que vous devrez m'apporter pour m'enterrer dans cette manière. Et Alexandre lui expliqua, « Je veux que le médecin le plus éminent transporte eux-mêmes mon cercueil pour démontrer ainsi que, face à la mort, ils n'ont pas le pouvoir de guérir. » Je sais que quand ma mère elle était très très malade, on a eu la conversation avec le médecin. Bon, il y a eu des histoires. Et moi, je dis que le médecin, il traite, il ne guérit pas. C'est Dieu qui guérit. Et il était d'accord. Il était d'accord. Oui, c'est vrai, nous traitons le malade, mais c'est Dieu qui guérit. Alexandre voulait que ce soit clair que le médecin le plus éminent de son royaume, il emporte pour l'enterrer. Pour dire qu'il ne pouvait pas guérir. Il ne pouvait pas guérir. Je veux que mes mains se balancent au vent pour que les gens puissent voir que les mains vides nous arrivons dans ce monde, et les mains vides nous en repartons. Comme Job, il a dit, j'ai venu ainsi, je partirai ainsi. J'ai rien apporté avec moi, je vais rien amener avec moi, je vais rien emporter. Je vais lire de Luc chapitre 12, versets 15 à 21, si vous voulez, vous pouvez le suivre avec moi. Luc chapitre 12, verset 15 à 21. Ce roi, Belshazzar, il n'a jamais pensé qu'il va mourir cette nuit-là. Il était en train de vivre pleinement avec tous ses convives, avec ses invités. Il était en train de fêter. Mais il ne savait pas qu'il va mourir cette nuit même. Et de même manière, le Seigneur Jésus, il a donné un parabole d'un homme riche. Il a récolté beaucoup, la terre, il a produit beaucoup. Donc, il avait beaucoup de récoltes. Il ne savait pas quoi faire. Il a dit, je vais construire des immenses stocks pour stocker mes grains et je vais vivre tranquillement. Je vais manger, boire et je vais m'amuser. En tout, c'est ça qu'il a dit. Hein. Et regardez ce que le Seigneur Jésus il dit, Luc 12, 15 à 21. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de... Fut-il dans l'abondance. Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Il raisonnait en lui-même. On raisonne beaucoup, hein? Quand le Seigneur il pose la question, on n'arrive pas à répondre. Mais en nous, pour nous satisfaire, pour nous consoler, on a beaucoup de raisonnements en nous-mêmes. Et il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui a amassé des trésors pour lui-même, qui n'est pas riche pour Dieu. Notre richesse n'est pas, ça ne dépend pas de ce que nous possédons. On peut posséder beaucoup de richesses, beaucoup de choses pour notre confort, mais nous oublions que notre vie, elle est tellement fragile. Elle peut être ôtée de nous n'importe quel moment. Imaginez l'empereur Belshazzar, il était enlevé comme ça. Il n'était rien du tout devant le Dieu souverain. Il n'a rien à glorifier. Il pensait qu'il était tout puissant, il peut tout faire. Mais Dieu l'a enlevé son âme hein, ainsi. Et dans sa parabole, c'est dur d'entendre ça, insensé. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Est-ce que tu as préparé pour qui cela sera-t-il? Et dernièrement, nous venons à la quatrième mot, Upharsin, voir que l'empire babylonien dirigé par le roi Nebuchadnezzar est une monarchie absolue. Donc Nebuchadnezzar l'a donné à son fils, mais quand il a été pesé et trouvé manquant, le royaume n'a pas été donné ni à ses fils, après Belshazzar, ni son peuple. Les royaumes qu'il a passé toute sa vie à construire ont été donnés à des étrangers. Cette histoire, ça passe entre l'Euphrate et le Tigris, hein, c'est-à-dire de nos jours, c'est Iran ou Irak. Et donc, un autre roi, il vient, il prend tout ce qu'il avait, il prend son royaume. En dehors de la division, de la remise de votre royaume aux Mèdes et aux Perses, il y a toujours le jugement ultime, le jugement de Dieu. Ce jugement produira quand Jésus reviendra pour juger le monde, lorsque le juge est assis sur le siège du jugement. Regardez avec moi en Apocalypse 18. Livre d'Apocalypse, chapitre 18. On va lire à partir des versets 14 jusqu'à 19. Apocalypse 18, 14 à 19. Les fruits que désirait ton âme sont allés loin de toi. Et toutes les choses délicates et magnifiques sont perdues pour toi, et tu ne les retrouveras plus. Les marchands de ces choses qui sont enrichis par elles se tiendront éloignés dans la crainte de son tourment. Ils pleureront et seront dans le deuil, et diront, malheur, malheur, la grande ville qui était vêtue de fin lin, de pourpre et d'écarlate, et paré d'or, de pierres précieuses et de perles. Et une seule heure, tant de richesses ont été détruites. Et tous les pilotes, tous ceux qui naviguent vers ce lieu, les marins et tous ceux qui exploitent la mer, se tenaient éloignés et ils écriaient en voyant la fumée de son embrasement. Quelle ville était semblable à la grande ville? Ils se jetaient de la poussière sur leur tête, ils pleuraient, ils étaient dans le deuil. Ils criaient, disant, malheur, malheur, la grande ville où se sont enrichis par son opulence tous ceux qui ont des navires sur la mer, et une seule heure, elle a été détruite. Et Jésus, dans son sermon sur la montagne, il dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent pas, et où le voleur ne perce ni ne dérobe. Matthieu 6, 19, 20. Et parfois, nous ne comprenons pas ce qui est plus précieux. Nous courons derrière les choses que nous pensons que c'est, il y a une grande valeur. L'apôtre Pierre, il dit dans son premier épître, chapitre 1, 18 et 19, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Nous étions rachetés par le sang précieux de l'agneau, le Fils de Dieu, et notre vie, elle est tellement précieuse pour Dieu, pas ce que nous possédons, ce que nous pouvons posséder un jour. Notre vie même, elle est précieuse pour notre Seigneur, pour notre Dieu. Maintenant, si nous devions poser la question à nous-mêmes, voyez-vous l'écriture sur le mur aujourd'hui? Nous devrions être honnêtes chacun pour répondre à cette question. Voyez-vous l'écriture sur le mur aujourd'hui? Parce que je pense qu'on ne peut pas oublier, on ne peut pas oublier. Mene, mene, tekel, ou parsim. Peser, peser, compter, compter, peser et diviser. Compter, compter, peser et diviser. Voyez-vous l'écriture sur le tableau noir aujourd'hui, dans le contexte de cette pandémie que nous témoignons? Ce virus a amené notre monde entier à l'arrêt. Mene, mene, tekel, ou parsim. Compter, compter, peser et diviser. Le Seigneur, il a dit que j'enlèverai le cœur de votre cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. Et j'écrirai ma parole dans votre cœur. Le Seigneur, il veut que sa parole, il imprègne dans notre cœur. Que ça reste pour toujours. Ce n'est pas parce que nous entendons aujourd'hui la parole de Dieu, mais après, nous ne donnons pas beaucoup d'importance, nous ne réfléchissons pas. Mais Dieu dit que c'est sérieux ce que Dieu dit. Comptez, comptez, pesez et divisez. Donc nous devrions réfléchir par rapport à ce que Dieu nous avertisse. Je ne parle pas uniquement de cette pandémie, je parle d'une manière générale. La pandémie, elle peut venir. Ça peut rester trois ans, cinq ans, ça peut partir. Mais quelle est notre attitude par rapport à des choses que nous possédons ou nous envions des choses que nous voulons posséder? Que ce soit pour la gloire de Dieu seul et n'est pas pour notre propre gloire. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Seigneur, notre Dieu, notre Père Céleste, Seigneur, ta parole est vraie, éternelle, elle nous parle même aujourd'hui. Seigneur, merci pour cette vérité que tu nous donnes. Seigneur, merci parce que tu es un Dieu qui intervient dans notre vie. Seigneur, tu es un Dieu qui veut nous arrêter sur nos chemins pour nous poser des questions, pour savoir ce que nous avons dans notre cœur. Seigneur, nous avons certainement des choses à te confesser. Seigneur, donne-nous un cœur pur, un cœur qui est sincère et honnête devant toi. Seigneur, rien n'est caché devant toi, Seigneur, et tout est dévoilé devant tes yeux. Seigneur, parle, continue à parler dans notre cœur et que ton nom soit glorifié à travers de notre vie. Bénis chacun d'entre nous présents ici. Nous prions pour ceux qui n'ont pas pu être là aussi. Seigneur, que ta parole soit suprême dans notre vie. En ton nom, nous prions et pour ta seule gloire. Amen.